Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 8 octobre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. En Guinée, un préfet est suspendu après des menaces contre les critiques du chef de la junte. Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua est menacé de destitution. Ici aux États-Unis, l'ouragan Milton s'est affaibli, mais devrait rester très dangereux. D'ailleurs, à cause de l'ouragan Milton, Joe Biden renonce à voyager en Allemagne et en Angola. Et dans notre partie magazine, au Mozambique, 4 candidats sont en lice pour la présidentielle demain, mercredi.
Je ne suis pas intéressée par le changement. Je connais déjà les gens, mais je préfère la continuité pour le développement du Mozambique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les autorités guinéennes ont suspendu un préfet qui avait suscité l'indignation en menaçant quiconque s'en prendrait à l'image du chef de la junte. Ces propos, selon les autorités, sont susceptibles de troubler l'ordre public. Le point avec Nani Talani.
Monsieur Kondiamara, préfet de Kankan, est suspendu de ses fonctions pour faute lourde, dit la télévision d'État, sans préciser ce qui est reproché exactement à ce représentant de l'État. Cette décision fait suite à des déclarations faites par le préfet lors de l'inauguration d'une stèle en hommage au général Mamadi Doumbouya. Kondiamara a menacé ceux qui pourraient dégrader la stèle qu'il pourrait connaître le même sort qu'un médecin récemment décédé en détention après avoir été accusé d'avoir incendié un portrait du chef de l'État. Les fauteurs de troubles vont être tentés d'y mettre le feu, de la craie ou de l'huile. Le premier qu'on va attraper en train de faire ça partira de la même manière que l'autre, avait lancé le préfet. Ces propos ont alimenté les soupçons que le docteur Mohamed Djoubaté pourrait avoir été maltraité en détention. La justice a présenté le décès du médecin comme un cas idiopathique, c'est-à-dire dont la cause n'est pas connue. Elle estime donc que les propos du préfet sont susceptibles de troubler l'ordre public.
Au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués dimanche dans une attaque djihadiste contre un marché à Mini dans le nord-est du pays. À tout un prix mardi, une source sécuritaire a confirmé l'attaque djihadiste, assurant que les forces sont en action dans la zone sans plus de précision. Aucun bilan officiel n'a été communiqué sur cette attaque. En Tunisie, le président sortant Kais Saied a été réélu à une majorité écrasante de 90,7% lors du scrutin de dimanche, marqué par un record d'abstention. Monsieur Saied a obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions d'inscrits, a annoncé lundi l'autorité électorale ICIE. Seuls 2 candidats étaient autorisés à se présenter sur 17 initialement après l'élimination des rivaux les plus solides de M. Kais Saied. Hayati Zamel, 47 ans, n'a recueilli que 7,35% des voix et Zuhair Mazawi a obtenu seulement 1,97%. Au Kenya, les députés se prononcent sur une motion de destitution du vice-président. Cette procédure inédite accuse Rigathi Gachagua, notamment de corruption. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
La motion de destitution liste 11 motifs dont atteinte à l'unité nationale, insubordination envers le président ainsi que de nombreuses suspicions de détournement de fonds publics. Elle affirme que M. Gachagua a cumulé un portefeuille immobilier estimé à 5,2 milliards de shillings, soit plus de 40 millions de dollars de manière inexplicable. M. Gachagua a répondu à ces accusations cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Il a qualifié hier ces accusations de pure propagande et de complot visant à le chasser du pouvoir, affirmant avoir hérité du patrimoine de son frère. Pour être adoptée, la motion doit réunir les 2/3 des députés. Si elle est approuvée, elle sera ensuite débattue et votée au Sénat. Cette motion est le point culminant de plusieurs mois de conflit entre le président William Ruto et son adjoint.
Près d'un million de personnes ont été déplacées de leur foyer cette année en République démocratique du Congo, où la situation des droits humains continue de s'aggraver. C'est ce qu'a déclaré mardi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk. Les membres de groupes armés seraient responsables d'attaques meurtrières contre des civils et des infrastructures civiles, des écoles et des hôpitaux. Il a également demandé aux pays qui exercent une influence sur les groupes armés de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les combats cesse. En Ouganda, le gouvernement a interdit la pratique du disco matanga lors des enterrements, estimant que ces danses diaboliques dégénèrent, notamment en violences sexuelles, a annoncé lundi la ministre ougandaise des Affaires générales, Justine Kasule Lumumba. Cette pratique, qui signifie disco funéraire en swahili, se déroule en soirée et jusque tard dans la nuit et voit des hommes ayant souvent consommé de l'alcool ou des drogues payer des jeunes femmes pour danser. L'argent récolté sert ensuite à payer les frais d'enterrement. En Zambie, au moins 10 personnes ont été tuées et 5 autres blessées lors de l'effondrement d'une mine dans le sud-ouest du pays lundi. L'accident s'est produit dans le district de Mumba lundi matin. La police a indiqué que l'enquête était toujours en cours sur les causes de l'accident. En août, 8 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine de gravier à l'est de la capitale, Lusaka.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ouragan Milton a été rétrogradé ce mardi en catégorie 4, mais reste extrêmement dangereux jusqu'à ce qu'il touche terre en Floride, selon le Centre national des ouragans américains. Plus d'un million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Alexandrine Holognon.
Avec des vents maximum de 250 km par heure, Milton a été rétrogradé de la catégorie 5 à la catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans publié ce mardi. L'ouragan devrait toucher terre en Floride, dans le sud-est des États-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir longé lundi et mardi la côte nord de la péninsule mexicaine du Yucatan, où il pourrait provoquer des vagues destructrices. Le Centre national des ouragans a indiqué que la tempête devrait frapper près de la région métropolitaine de Tampa Bay, où certains des 3 millions d'habitants se sont empressés de se débarrasser des monticules de débris laissés par Helene avant d'obéir aux ordres d'évacuation. Si l'ouragan traverse directement la ville, ce sera la première fois depuis 1921. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que l'État va activer 8000 membres de la garde nationale et a stocké des camions de fournitures et d'équipements pour parer au pire.
D'ailleurs, le président Joe Biden renonce à se rendre comme prévu en fin de semaine en Allemagne puis en Angola. Une décision dictée par la trajectoire et la puissance prévue pour l'ouragan Milton a fait savoir ce mardi la Maison-Blanche. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Le président américain reporte son voyage à une date qui n'est pas précisée afin de superviser les préparatifs et la réponse à ce puissant ouragan qui doit toucher la Floride mercredi, selon un communiqué de l'exécutif. Le sujet des catastrophes naturelles est devenu politiquement explosif à moins d'un mois de l'élection présidentielle qui va opposer la vice-présidente Kamala Harris à l'ancien président républicain Donald Trump. Joe Biden et la candidate démocrate sont la cible de féroces critiques des Trumpistes qui les accusent de n'avoir pas engagé suffisamment de moyens pour répondre à un autre ouragan, Helene, qui a fait plus de 220 morts. L'ouragan Helene a ravagé il y a un peu plus d'une semaine certaines zones du sud-est des États-Unis, en Floride, mais aussi en Géorgie et en Caroline du Nord, qui sont tous des États au rôle décisif pour le scrutin du 5 novembre.
La défense civile gazaoui a annoncé mardi la mort de 17 personnes dans une frappe israélienne sur une maison d'un camp de réfugiés du centre de la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué environ 20 terroristes lors de frappes aériennes et dans des combats au sol ces dernières 24 heures à Jabalia, où elle affirme avoir découvert un entrepôt du Hamas contre lequel Israël est en guerre depuis un an. Le prix Nobel de physique a été décerné mardi au britannique Canadien Geoffrey Hinton et à l'Américain John Hopfield pour leurs travaux respectifs dans l'apprentissage automatique cruciaux pour le développement de l'intelligence artificielle. Les lauréats ont mené des recherches dans les réseaux de neurones artificiels dès les années 1980, ouvrant la voie aux promesses de l'intelligence artificielle, révolution technologique qui suscite des inquiétudes, y compris chez ses inspirateurs. John Hopfield, 91 ans, est professeur à la prestigieuse université de Princeton. Geoffrey Hinton, âgé de 76 ans, est professeur à l'université de Toronto au Canada et considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Il a annoncé son départ de Google en mai 2023 pour pouvoir alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lyndon.
Les exportations africaines de services liés aux technologies de l'information et de la communication ont atteint 9,2 milliards de dollars en 2023, enregistrant une croissance de 5,4% par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèle l'agence Ecofin, citant un rapport d'un organisme spécialisé sur le commerce numérique en Afrique, publié en septembre 2024. Malgré le refus de sa candidature au BRICS en août 2023, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a confirmé que l'Algérie injecterait 1,5 milliard de dollars dans le capital de la nouvelle banque de développement des BRICS, qui dispose actuellement d'un capital autorisé de 100 milliards de dollars, dont 50 milliards sont déjà souscrits. Le ciel français pourrait bientôt accueillir une nouvelle venue dans ses rangs. Il s'agit de Fly Gabon, la compagnie aérienne gabonaise fraîchement lancée et en pleine expansion, ambitionne désormais de relier le Gabon à la France, indique le site ecomatin.net. Après l'Afrique du Sud, la jeune compagnie veut étendre son réseau international. C'est pendant une rencontre à Paris que le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, a réitéré cette ambition.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
La légende Iniesta, héros très discret de l'Espagne et du Barça, prend sa retraite.
Symbole de la génération dorée de la sélection espagnole et du Barça, Andrés Iniesta a décidé ce mardi de mettre un terme à sa riche carrière à 40 ans, laissant, malgré sa discrétion légendaire, une empreinte indélébile par sa technique soyeuse et son immense talent de créateur. Si son geste favori était la passe, c'est bien sûr son but en finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud qui l'a fait entrer dans le cœur des Espagnols. En 2018, au crépuscule de sa carrière, l'ex-maestro du FC Barcelone avait rejoint Kobe, club détenu par un milliardaire en high-tech Hiroshi Mikitani, pour un revenu annuel évalué à 30 millions de dollars avant de renouveler son contrat de 2 ans en 2021. Jouissant d'une grande popularité au Japon, il a engendré plus de 100 millions de dollars de revenus liés notamment à la billetterie, signe d'une aura qui a largement dépassé les frontières de la Catalogne et de l'Espagne.
Iniesta n'a jamais obtenu le ballon d'or que son parcours aurait mérité, terminant deuxième en 2010.
Le football est un jeu très sérieux où il faut s'amuser, avait-il également déclaré en 2016, résumant de sa voix douce sa conception du sport roi. Certes, éclipsé par la Pulga, Iniesta n'a jamais cherché à attirer les projecteurs sur lui, mais son nom restera toujours associé au seul titre mondial de l'Espagne, grâce à son but inscrit en finale en 2010 face aux Pays-Bas et à la période faste du FC Barcelone de Lionel Messi, 4 fois victorieux de la Ligue des Champions 2006, 2009, 2011 et 2015. Aux côtés de son éternel compère Xavi, Iniesta a ainsi été le porte-étendard du fameux Tiki-Taka. Ce style de jeu à l'espagnol fait d'incessants redoublements de passes loués par les plus grands entraîneurs et qui a fait la bonne fortune de la Laura et du Barça. Avec la retraite d'Iniesta, c'est donc une page glorieuse du football espagnol et catalan qui se tourne, Messi étant désormais le dernier membre en activité du 11 barcelonais qui avait enchanté la planète en 2009 en remportant la Champions League sous les ordres de Pep Guardiola.
Et enfin, après une année faste, le football saoudien lève le pied sur les transferts.
Après avoir déboursé près d'un milliard de dollars pour attirer des stars dans son modeste championnat, l'Arabie saoudite a levé le pied sur les transferts cette année, divisant ses dépenses par deux sur fond de pression budgétaire dans la monarchie pétrolière. Le montant des transferts dans les clubs saoudiens, dopé en 2023 par l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané et Neymar, a chuté de 975 millions de dollars à 431 millions de dollars lors de la dernière fenêtre.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Législative au Sénégal, la Direction générale des élections a déjà publié la liste provisoire des candidatures retenues, mais qui doivent être validées par le Conseil constitutionnel. L'ex-président sénégalais Macky Sall, désigné cette semaine tête de liste d'une coalition de l'opposition, a renoncé à ses fonctions d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Pour en parler, Eric Manilakiza a joint à Dakar le journaliste Alassane Samba Diop, directeur général du groupe Immédiat Invest.
Ben écoutez, je pense que les élections législatives anticipées au Sénégal seront très, très disputées. C'est très rare qu'on voit au Sénégal qu'un ancien président de la République, un ex-président de la République qui n'a laissé le pouvoir qu'il y a 6 mois, se présente en tant que tête de liste d'une coalition pour être député. Ce qui veut dire que les enjeux sont énormes. Et pour lui, en tant qu'ancien président, et ensuite, pour la nouvelle majorité qui est ici au Sénégal, le PASSEF qui a gagné, qui a été élu à avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ses orientations, ses lois et aussi sa politique. Le pouvoir qui était en place aussi se bat pour conserver une majorité aussi à l'Assemblée nationale ou bien pour rééquilibrer les forces. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, les enjeux sont énormes par rapport à cette élection législative qui va se dérouler le 17 novembre prochain. Les jeux sont très ouverts. On ne sait pas qui va effectivement gagner les élections. Parce que le nouveau pouvoir, depuis 6 mois qui sont aux manettes, il y a aussi beaucoup de déceptions par rapport à certains qui comptaient sur ce pouvoir-là, sur beaucoup de choses. Il y a quelques licenciements qu'on a vus de part et d'autre. La vie est très dure au Sénégal, elle est trop chère. Les produits ont augmenté. Il y a un doute qui commence à s'installer dans la tête de beaucoup de Sénégalais par rapport à la conduite des affaires de ce nouveau pouvoir. L'opposition qui a quitté aussi ne rassure pas, parce qu'elle était là aussi, elle est comptable aussi de la situation dans laquelle vit le pays. Donc nous sommes dans une sorte d'ambivalence par rapport à la gestion de ce qui va se passer. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va sortir des urnes le 17 novembre prochain par rapport au pouvoir et à l'opposition. Donc on est un peu dans l'expectative.
Le pouvoir en place cherche une majorité pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Ça, c'est un argument qui pourrait peut-être avoir beaucoup de sympathie vis-à-vis des électeurs.
Les Sénégalais sont souvent logiques, même quand ils mettent en place le pouvoir. À chaque fois que les pouvoirs sont venus à l'Assemblée nationale, ils donnent la majorité. C'était le cas avec Abdoulaye Wade quand il est venu au pouvoir. C'était le cas avec Macky Sall. Je pense que pourquoi pas avec le PASSEF qui est au pouvoir, qui lui donne la majorité par rapport à la gestion du pays pour qu'il puisse donner son programme. Mais toujours est-il, il y a une chose inédite, comme je vous ai dit, il y a des tenants de l'opposition, l'ancien président de la République, l'ex-président est candidat. On va voir si les gens vont continuer à le sanctionner par rapport à ce qu'il y a eu à être ici au pouvoir. Il y a aussi l'ex-premier ministre qui est aussi candidat. Donc il y a des tenants qui sont dans l'opposition, qui sont aussi des candidats pour cette législative qui arrive. Donc il faut prendre des choses avec beaucoup de pincettes. On verra ce qui va se passer, mais ce qui est clair que si les Sénégalais suivent leur logique, ils doivent donner la majorité portée au pouvoir qui est en place, le PASSEF. Maintenant, on ne sait jamais, les électeurs dans nos pays africains sont très versatiles. On verra bien.
Alassane Samba Diop, journaliste et directeur général du groupe Immédiat Invest. À la tête d'une initiative novatrice en milieu rural burundais, Micheline Barandereka œuvre depuis 2011 pour offrir une éducation d'excellence aux jeunes ruraux marginalisés à travers une approche holistique intégrant les familles situées à Lusaka, sur la colline Matyazo, en province Mwaro, à 75 km de Bujumbura, la capitale. Le Shekinah Center comprend une école qui accueille 60% de filles. Samedi, lors de sa conférence à Washington, devant la diaspora burundaise, elle a partagé ses défis, réussites et son ambition de reproduire ce modèle à travers tout le Burundi. Le point avec Eric Manilakid.
Depuis sa création en 2011, le centre Shekinah a vu ses effectifs croître pour atteindre aujourd'hui 350 élèves répartis entre la maternelle, le primaire et le secondaire. Mon école, ma maison, un soutien éducatif et familial, une approche pour accompagner non seulement les élèves dans leurs études, mais également leurs familles à travers des initiatives telles que l'accès à l'eau potable et des programmes d'autonomisation économique. Micheline Barandeleka, fondatrice de Shekinah Center.
Nous avons réalisé que les cas de pauvreté familiale, les cas d'abandon scolaire sont liés à la pauvreté familiale. C'est pour ça que l'enfant nous interpelle tous. J'ai besoin de l'école, mon école doit être aussi ma maison.
Cependant, malgré cet accompagnement complet, Micheline Barandeleka a dû faire face à un défi de taille pour assurer l'intégration réussie de ses élèves.
Malgré qu'on a donné un toit, malgré qu'on a donné à manger, malgré qu'on a donné des habits, malgré qu'ils allaient à l'école, ils préféraient retourner dans la rue. Pourquoi ? Parce que tu préfères retourner dans la misère. Et ils avaient perdu le sens de la famille. Ils avaient perdu le sens de vivre en ordre. Et ça, après 5 ans, 10 ans, il est difficile de redresser un enfant.
À Washington, Micheline Barandeleka s'est adressée le 5 octobre dernier à la diaspora burundaise, appelant à leur implication dans l'extension de son modèle éducatif innovant en tant qu'amie de Shekinah. Alice Mousseli partage ses impressions.
Elle fait passer des enfants vulnérables d'une situation que je dirais zéro vers une situation d'une personne épanouie. Cela m'a vraiment marqué.
Micheline Barandeleka souligne l'impact des champs scolaires sur la nutrition des enfants, un aspect essentiel du projet Shekinah qui améliore leur santé en leur offrant des repas équilibrés et nutritifs.
L'enfant, quand on lui demande comment tu connais Dieu, l'enfant dit oui, je connais Dieu parce que Dieu, je l'ai vu dans mon assiette. La Shekinah, c'est cette école. La Shekinah, c'est cette eau potable. C'est ça, la Shekinah, la présence de Dieu.
Alors que les premiers élèves s'apprêtent à passer l'examen d'État pour accéder à l'université, le succès du projet repose sur un taux de réussite exceptionnel de 100%. Micheline Barandeleka aspire à ce que chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance, puisse avoir accès à une éducation de qualité tout en intégrant sa famille et sa communauté dans son parcours. En reconnaissance de son travail acharné, Micheline Barandeleka a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux.
À quelques semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis, l'Arizona est l'un des champs de bataille décisifs. La candidate démocrate Kamala Harris et son rival républicain Donald Trump savent tous les deux que la victoire dans cet État du Sud-Ouest est capitale dans leur course vers la Maison-Blanche. Aline Barros, journaliste de VOA spécialisée dans l'immigration, s'est rendue dans cet État pour demander aux électeurs comment l'immigration influence leurs décisions dans cette élection. Le récit, Michel Joseph.
À la fin du mois dernier, la vice-présidente Kamala Harris s'est rendue pour la première fois à la frontière sud en tant que candidate démocrate à l'élection présidentielle. Elle a marché le long d'une partie du mur construit à Douglas, en Arizona, pendant la présidence de Barack Obama. Plus tard, lors d'un meeting de campagne, Harris a déclaré que le pays devait surveiller ses frontières. Mais elle a aussi appelé à une meilleure façon d'accueillir légalement les immigrés.
Nous devons réformer notre système d'immigration pour qu'il fonctionne de manière ordonnée, qu'il soit humain et qu'il rende notre pays plus fort.
Certains habitants de l'Arizona disent que l'immigration est la raison pour laquelle ils votent pour l'ancien président Donald Trump, qui a promis d'être plus sévère à l'égard de l'immigration clandestine.
Je n'ai aucun problème avec l'immigration, pas du tout.
Mais Jane DeGretia affirme que les personnes qui traversent illégalement n'ont pas leur place aux États-Unis.
C'est très injuste pour notre pays, c'est dangereux.
Il y a plus de 4,1 millions d'électeurs inscrits en Arizona. Environ 35% d'entre eux sont inscrits comme républicains, tandis qu'un peu plus de 29% sont inscrits comme démocrates. Environ 34% des électeurs appartiennent à la catégorie « autres » qui comprend les indépendants et ceux qui n'appartiennent pas aux grands partis.
La part des indépendants dans l'électorat de l'Arizona est en pleine croissance.
Mark Kimball est le président de la commission des élections citoyennes à Tucson, en Arizona. Il est inscrit comme électeur indépendant. Il affirme que l'immigration n'est pas la priorité de tout le monde.
Les républicains sont beaucoup plus enclins à dire que le problème majeur est l'immigration. Les démocrates sont beaucoup plus enclins à dire que le problème majeur est l'avortement. Les indépendants sont plus enclins à dire que c'est l'avortement, mais pas de manière écrasante.
L'Arizona est le seul État du champ de bataille qui borde le Mexique et qui a connu un nombre record d'arrivées de migrants en 2023. Le jour où Harris s'est rendu à la frontière, Trump, en campagne dans le Michigan, a de nouveau promis de fermer la frontière.
Nous allons lancer la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis et nous n'avons pas d'autre choix que de le faire.
Mais ce jeune électeur dit qu'il aimerait voir un système d'immigration qui ne sépare pas les familles pendant si longtemps.
C'est déchirant de voir des familles séparées.
Daniel Gutierrez dit que son père est un partisan de Trump, tandis que sa mère dit qu'elle votera pour Harris.
J'entends donc les deux parties.
Et pour la prochaine élection présidentielle, Gutierrez a décidé de voter pour...
J'ai décidé de voter pour le Parti démocrate.
Alors que certains Arizoniens savent pour qui ils voteront en novembre, d'autres s'efforcent d'inciter un plus grand nombre de personnes à se rendre aux urnes. Et ces électeurs pourraient contribuer à décider qui va gagner la Maison-Blanche le 5 novembre.
Au Mozambique, 4 candidats sont en lice pour la présidentielle. Certains promettent de débarrasser le pays d'une corruption endémique et d'améliorer l'économie, tandis que d'autres affirment qu'ils mettront fin à l'insurrection djihadiste qui perdure dans la province de Cabo Delgado, au nord du pays, et qui a provoqué le déplacement d'environ 1 million de personnes depuis 2017. Comme le rapporte depuis Maputo, Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, certains Mozambicains disent qu'ils sont plus intéressés par une vie meilleure que par le vainqueur des élections de mercredi. Récit Jean-Roger Billon.
Le même parti, le Frelimo, dirige le Mozambique, pays d'Afrique australe, depuis son indépendance du Portugal en 1975. Certains estiment que le pays se porte plutôt bien. C'est le cas d'Argentina Bebe, 69 ans, qui a déclaré à la VOA qu'elle était trop âgée pour attendre du changement et qu'elle souhaitait une continuité lors des élections présidentielles et législatives prévues mercredi.
Je ne suis pas intéressée par le changement. Je connais déjà les gens, mais je préfère la continuité pour le développement du Mozambique.
D'autres comme Ernesto Cremildo Castigo, 28 ans, qui travaille dans une boucherie, affirment qu'il votera pour le changement.
Principalement à cause de la corruption, pour que le Mozambique puisse se développer, pour que la société se porte mieux en termes de justice, d'éducation, de transport public.
Aslak Ore, chercheur à l'Institut Christian Michelsen en Norvège, mène des recherches sur le Mozambique depuis 25 ans. Selon lui, la corruption affecte la vie quotidienne des gens ordinaires.
Il existe cette corruption au quotidien. Lorsque les gens ont besoin de services civils et qu'ils doivent payer des pots de vin pour obtenir leurs services auprès de l'État ou des institutions municipales, cela complique un peu les choses.
4 candidats sont en lice pour cette présidentielle, dont Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir, le Frelimo. Lors d'un récent meeting, l'ancien présentateur de radio de 47 ans a déclaré à ses partisans que la paix et la sécurité de son pays constitueront sa priorité absolue.
Car sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Comme je l'ai dit ici, nous avons des frères qui souffrent des attaques terroristes à Cabo Delgado.
Le gouvernement lutte contre une insurrection dans la province de Cabo Delgado, riche en gaz et en pétrole, où environ 4000 personnes auraient été tuées et environ 1 million déplacées depuis 2017, affectant des projets pétroliers et gaziers de plusieurs milliards de dollars. Pendant ce temps, les analystes affirment que l'une des plus grandes réalisations du Frelimo a été de mettre fin à des années de guerre brutale avec le mouvement de résistance nationale mozambicain ou RENAMO. La RENAMO est depuis devenue l'un des principaux partis d'opposition qui est arrivé en deuxième position lors de la dernière élection présidentielle.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.